Lire quelques versets dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Le premier verset, Luc 22, 1. Or la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque, approchait. Verset 7. Et le jour des pains sans levain, dans lequel il fallait sacrifier la Pâque, arriva. Il envoya, c'est le Seigneur, Pierre et Jean, disant, « Allez et apprêtez-nous la Pâque afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous l'apprêtions ?» Et il leur dit, « Voici, quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera une grande chambre garnie. Apprêtez-la, la Pâque. » Et s'en étant allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils apprêtèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez ceci et le distribuez entre vous. » Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. » Nous savons que le dernier souper que le Seigneur a pris avec ses disciples la nuit même où il a été livré nous est rapporté avec différentes circonstances et différents détails dans les quatre évangiles. En fait, si l'on y pense, Jean donne plus de détails que les autres évangiles parce qu'il est le seul à nous rapporter le sujet de la conversation du Seigneur Jésus avec ses disciples, qui, nous le savons, occupe les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile selon Jean. Et puis, il est le seul aussi à nous présenter la prière par laquelle le Seigneur Jésus a terminé probablement cet entretien avec ses disciples, la prière sacerdotale qu'il a adressée à la fin de cette heure au Père pour recommander les disciples en son nom. Les trois évangiles synoptiques nous présentent la célébration de la dernière Pâque du Seigneur Jésus avec ses disciples et l'institution de la scène du Seigneur. Nous avons lu le récit de l'Évangile selon Luc parce qu'il est le seul à donner deux détails caractéristiques d'importance. Le premier détail, c'est que Luc identifie, réunit en une seule fête, les deux fêtes de la Pâque et la fête des pains sans levain. Et d'un autre côté, Luc est le seul évangile dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, à distinguer aussi clairement la célébration de la Pâque d'abord et l'institution de la scène ensuite. Alors disons tout de suite, pour que les choses soient bien claires dans nos pensées, dans nos cœurs avant tout, que la Pâque est ici, jusqu'à la mort de Christ et à la croix de Christ, l'anticipation du sacrifice de Christ. La Pâque est donc cette anticipation, la scène du Seigneur au contraire. À partir de la mort du Seigneur et jusqu'à son retour, en est le précieux et solennel souvenir. La Pâque est l'anticipation de la mort de Christ, la scène est le souvenir de la mort de Christ. Christ ici est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Et dans cet amour qu'il avait pour ses chers disciples, pour tous ceux qui l'avaient suivi, pour tous ceux qui étaient à lui sur la terre pendant son séjour ici-bas, pour tous ceux aussi qui allaient être mis au bénéfice de son œuvre, c'est eux qu'il envisage dans la prière sacerdotale du chapitre 17. Pour cela, il désirait leur manifester un dernier souvenir, un dernier gage de son amour qui est fort comme la mort. Rien ne peut être plus touchant que ce dernier souper, le repas du soir, le repas de l'adieu, le repas du souvenir que le Seigneur a pris avec ses disciples. Et il avait devant lui les souffrances. Il avait devant lui la scène de Gethsémané qui a suivi immédiatement. Là, il allait prendre de la main de son Père la coupe de la colère de Dieu contre le péché. Et cette coupe, il la boirait sur la croix, dans les heures de l'expiation. Alors le Seigneur va laisser quelque chose, un souvenir de son amour à ses disciples, à chacun de nous maintenant, qui sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ. Les premiers détails, la manière dont le repas est arrangé dans la salle, la pièce, la chambre est choisie, sont de toute valeur. Nous voyons le Seigneur ici ayant l'autorité. Il est Seigneur sur toutes choses. Il commande. Il avait d'ailleurs commandé quelques jours auparavant qu'un ânon soit mis à sa disposition pour qu'il accomplisse la prophétie de Zacharie. Maintenant, il commande au maître de la maison, disant « Le maître, celui qui enseigne, eh bien, désire prendre cette chambre. » C'est une chambre qui est au-dessus, Marc nous le dit, qui est au-dessus de la tourmente, des souffrances, des peines, des difficultés, des tribulations de la vie présente. C'est un lieu de sérénité, un lieu de paix. En même temps, l'étreinte du cœur de Christ, il est troublé dans son âme, troublé dans son esprit. Son cœur va être brisé par la souffrance. Ces choses étaient devant lui. Et pourtant, il ne pense qu'à ses chers disciples. Maintenant, pour manger avec eux, il avait fort désiré, désiré avec un ardent désir de manger cette Pâque avec eux avant qu'ils souffrent. Nous savons que les Juifs, à partir de la célébration de la Pâque, avaient ajouté les coupes de vin. Et autant qu'on peut comprendre, se souvenir de la manière dont le rite de la Pâque se célébrait parmi les Juifs, on pense qu'au début du repas, le repas de la Pâque se faisait par famille. Christ là est le chef de cette petite famille tirée en dehors du monde et gardée pour la joie de son cœur dans ce moment solennel pour partager le repas avec lui. Au début du repas, on prenait une première coupe que le chef de famille prenait, en buvait et le passait alentour. Puis on lisait plusieurs psaumes, les psaumes 113 et 114. Et nous voulons lire juste un verset d'un de ces deux psaumes pour en tirer un enseignement. Les psaumes 113 et 114 étaient lus avant la célébration de la Pâque, c'est-à-dire avant de manger l'agneau pascal. Et nous lisons simplement au verset 3 du psaume 114, un passage qui serait à rapprocher du psaume 66, et qui a une grande importance pour nous. La mer le vit, il s'agit de la mer Rouge, et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Verset 5, qu'avais-tu, mer, pour t'enfuir, toi, Jourdain, pour retourner en arrière? C'est un des deux seuls passages de l'Écriture, à ma connaissance, qui associe, qui lie pour nous moralement, le passage pour Israël de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Et en fait, si l'on rapproche la Pâque d'un côté, avec la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain, on voit en figure le salut complet qui est notre portion basée, fondée sur l'œuvre de Christ. À la Pâque, par la célébration de l'agneau pascal, Israël, mis à l'abri par le sang du jugement, rencontrait Dieu comme un juge et échappait au jugement de Dieu qui devait fondre sur les maisons des Égyptiens et tuer tous les premiers-nés parce que le jugement était porté par un autre, présenté en figure dans l'agneau pascal qui lui avait été mis à mort et son sang pris avec un bouquet d'hysope placé sur les deux poteaux et sur le linteau des maisons des Israélites. Mais si le peuple rencontrant Dieu comme un juge, avait échappé au jugement, il était encore en Égypte. Il fallait en sortir de cette maison de servitude. Et la Pâque, de ce point de vue-là, marquait aussi le souvenir de la délivrance d'Égypte. La Pâque pour nous maintenant est le souvenir d'une délivrance extrêmement bien supérieure, bien plus puissante que celle d'Israël hors d'Égypte. C'est nous sortir de la main, la maison de servitude dans laquelle Satan nous tenait liés. Et c'est par la mort que le Seigneur a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort et qui l'a délivré. Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Alors, il fallait, pour sortir d'Égypte, traverser l'obstacle qui était la mer Rouge, une deuxième figure de Christ et de son sacrifice. La mer Rouge est le symbole de la mort de Christ, où Christ meurt pour nous. Dieu est rencontré comme un libérateur. Un juge à la Pâque, un libérateur à la traversée de la mer Rouge. Mais pour autant, le peuple était-il arrivé dans le pays de promesse? Avait-il franchi les bornes de son espérance? Pas encore, il y avait le désert à traverser. Ce désert qui représentait 11 journées de chemin seulement, et qui a été transformé par sa propre faute, du peuple, en 38 ou 40 ans d'errance. Et lorsqu'il est arrivé au terme du désert, il fallait franchir le dernier obstacle, et le Jourdain regorgeait par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson. C'est aussi un symbole de la mort et du jugement. Christ, la vraie arche du Seigneur de toute la terre, ouvre dans ses eaux du fleuve de la mort, ouvre un passage à sec pour le peuple. Là, ce n'est pas essentiellement Christ qui meurt pour nous, c'est nous qui sommes maintenant morts avec lui, pour être ressuscités avec lui et être introduits maintenant par la foi et bientôt effectivement dans la terre de notre repos et de notre bénédiction finale. On comprend bien donc pourquoi les deux étendues d'eau de la mer Rouge et du Jourdain étaient liées ici et sont l'un et l'autre liés à la célébration de la Pâque. Avec la Pâque, la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain, nous avons les résultats finaux, complets de l'œuvre de Christ à l'égard de tous les croyants. Donc la première coupe était bue par le chef de famille passé alentour dans la famille et on lisait les psaumes 113 et 114. Ensuite, on célébrait la Pâque proprement dite. Cette Pâque, dans son institution d'Exode 12, devait être célébrée de la manière suivante. On mettait en garde un agneau entre le 10e et le 14e jour du premier mois, le mois d'Abib, qui devait marquer d'ailleurs l'identité du peuple, son identité nationale. Le peuple est appelé le peuple de Dieu à partir du moment où il est sorti d'Égypte. L'agneau devait être égorgé, mis à mort entre les deux soirs. La chair était rôtie au feu. Le sang était mis à part dans un bassin pour être utilisé avec un bouquet d'hysope comme signe sur les maisons où les Israélites trouveraient leur refuge. Et la chair de l'agneau devait être mangée à la hâte avec deux choses, des pains sans levain et des herbes amères. Et c'est là que nous retrouvons la mention de la Pâque liée à la célébration de la fête des pains sans levain. Sans entrer dans beaucoup de détails, je voudrais simplement présenter la position de ces deux fêtes qui vont donc ensemble dans le déroulement des fêtes de l'Éternel. La première fête, Lévitique 23 et d'autres passages sont bien clairs à ce sujet, la première fête était le sabbat, c'est le repos de Dieu en création. La dernière fête était la fête des tabernacles, c'était la fête de la joie parfaite. C'est le symbole pour nous du repos de Dieu dans la rédemption. Et entre le repos de Dieu dans la création troublée par l'introduction, l'entrée du péché dans le monde par l'homme, par nous, et le repos de Dieu dans la rédemption, où là le péché ne peut atteindre, la puissance de Satan est entièrement détruite. Il n'y a rien que du bien et du bonheur éternel. Entre ces deux fêtes, entre le repos de Dieu dans la première création et le repos de Dieu dans la nouvelle création, il y a comme fondement l'œuvre de Christ par laquelle, justement, nous pouvons, en pure grâce, être introduits dans ce repos éternel. Et le fondement même, c'est donc l'agneau de Dieu qui meurt, qui s'offre pour le péché du monde. C'est la Pâque. À la Pâque se liait immédiatement donc la fête des pains sans levain, qui est une figure de ce que doit être l'absence, le levain étant la figure du mal, de ce que doit être l'absence de mal dans nos voies. Le peuple devait célébrer cette fête pendant 7 jours, une plénitude de temps, quelques difficultés se présentent parce qu'en principe, la fête des pains sans levain devait commencer après la Pâque. Et en fait, on voit d'après d'autres institutions que les pains sans levain devaient être déjà préparés au moment de la Pâque. Il n'y a jamais de discordance ou d'opposition dans l'Écriture, simplement que nous ne pouvons pas toujours tout expliquer. Alors ces deux fêtes allaient donc ensemble. Ensuite, après la mort de Christ, il y a sa résurrection, c'est donc la fête des prémices. Les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, la fête des semaines, qui préfigure la période de l'Église, où les deux pains, Israël et les nations, sont unis ensemble pour être offerts à Dieu. Cette fête aura son terme, dans sa portée prophétique, lorsque l'Église sera enlevée. Alors Dieu reprendra ses relations avec Israël pour introduire enfin l'Israël de Dieu dans cette bénédiction, dans cette joie, dans ce bonheur qu'ils n'avaient jamais pu saisir, auquel ils n'avaient jamais pu participer par leur propre force, par les ordonnances de la loi. Et il faut qu'il y ait d'abord l'identité d'Israël retrouvée, c'est la fête des trompettes, ensuite le souvenir de ce que Christ a été comme celui qui a été percé et rejeté, c'est le travail de la grâce dans le jour des propitiations, et enfin, c'est la dernière fête, la fête des tabernacles. Cette fête, chers frères et sœurs, chers amis, sera pour la joie de tous. Moralement, nous serons arrivés. Les peines et les souffrances, les choses qui nous auront tellement fait de peine, tellement fait souffrir, qui nous auront quelquefois fait manquer de courage, ces choses-là auront leur terme. La joie, elle sera celle de tous. Pourquoi ? Parce que ça sera la joie du Rédempteur. C'est la joie de Christ que nous partageons. Il ne sera plus nécessaire ni de la vigilance, ni des peines et des souffrances pour nous aider à partager notre joie avec tous. La joie sera celle de tous. Elle est là au premier plan. Tu ne seras que joyeux dans la dernière fête de Deutéronome 16. Voilà donc la place de la Pâque dans les fêtes de l'Éternel. Maintenant, la célébration de la Pâque, donc, était... On mettait à mort l'agneau pascal, on mettait son sang à part, son sang ne devait pas être mangé, bu. La chair de l'agneau rôtie au feu, qui est le souvenir, la figure des souffrances de Christ, cette chair rôtie au feu devait être mangée, aucun des os de l'agneau ne devait être brisé. Et cette chair, elle était mangée à la hâte, le peuple allait commencer son voyage en dehors d'Égypte, en direction de la terre promise. C'était une nuit solennelle. Une nuit à garder en vos générations. Pourquoi, chers jeunes, nous vous enseignons ainsi ces choses? Avec beaucoup de faiblesse, nous le reconnaissons bien volontiers. Écoutez la parole plus que ceux qui vous ont devancé, qui essayent de vous donner quelque chose. Pourquoi ces choses passent-elles d'une génération à l'autre? Pourquoi est-il, selon Dieu, que lorsqu'une génération s'en va et qu'une autre génération vient, eh bien, il y a un passage des générations et qu'il y ait une communication d'une génération à l'autre de ces choses éternelles, parce que elles sont fondamentales. L'œuvre de Christ est la base, le fondement de tout. Donc c'était une nuit solennelle à garder. Deux choses d'ailleurs étaient à garder. La première, c'est la nuit de la Pâque, et la deuxième chose, en toutes les générations d'Israël, c'était la traversée du Jourdain. On retrouve d'ailleurs comment ainsi la traversée de la mer Rouge, la célébration de la Pâque, et la traversée du Jourdain sont les trois liés ensemble. Ensuite, les Juifs avaient ajouté une autre coupe. Là, le Seigneur la prend, je ne suis pas sûr qu'il y ait participé, et la donne à ses disciples. En disant un mot de cette coupe qu'on trouve en Luc 22, au verset 17. Seigneur, au verset 15, nous dit « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit « Prenez ceci et le distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ici, la première coupe mentionnée par l'Écriture, par le chapitre 22 de Luc, qui est la deuxième dans la célébration habituelle de la Pâque par les Juifs, cette coupe est un symbole de la joie. Le fruit de la vigne c'était Israël qui n'a jamais porté que du mauvais raisin, que du verjus, que du raisin sauvage. Un jour, cette vigne dont Dieu a pris soin et qui n'a jamais rien porté pour lui, un jour, cette vigne sera soignée et apportera à Dieu la joie qu'il était en droit d'attendre de son peuple terrestre. Alors cette joie, elle sera partagée par le Seigneur d'une autre manière et dans le royaume de son Père, dans le royaume de Dieu. Et pour le moment, le royaume de Dieu était rejeté. Le roi était rejeté, le royaume de Dieu était reporté à plus tard. De sorte que cette joie, momentanément, n'était pas la part du Seigneur Jésus avec ses disciples. Il en annonce quand même l'anticipation pour un temps à venir pour Israël. Donc cette première coupe est la figure de la joie du royaume terrestre de Dieu. Alors nous en trouvons la relation dans Sophonie 3, 17. Il se réjouira avec joie à ton sujet, il s'égaillera à ton sujet, il se réjouira avec joie et il se reposera dans son amour. Et dans ce même chapitre de Sophonie 3, trois ou quatre versets avant, que trouvons-nous ? Je laisserai au milieu de toi un peuple abaissé et affligé, et ils se confieront au nom de l'Éternel des armées. Il est impossible de goûter la joie de Christ, présentement. Quelle grande leçon pour nous. Si nous ne sommes pas dans l'esprit, justement, de l'Église en adorant qui s'humilie. Le brisement de cœur est la condition par laquelle nous pouvons servir Dieu. Méfions-nous de ce que nous sommes par nature, des tendances que nous avons à toujours nous élever, pas nécessairement au-dessus des frères, au-dessus les uns des autres, mais simplement nous élever dans notre propre cœur, dans nos propres pensées. Nous avons d'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, plus loin dans le chapitre 22 de Luc, nous avons la démonstration éclatante de ce fait que notre pauvre cœur est incorrigible. Lorsque le Seigneur vient de donner à ses chers disciples le témoignage suprême de son amour, fort comme la mort, que font les disciples ? Une contestation parmi eux pour savoir lequel serait le plus grand. Le Seigneur ne leur reproche même pas. Vous êtes avec moi, de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations. Quelle leçon le Seigneur nous donne ici. Alors cette coupe de la joie est reportée à plus tard. Et revenons un moment sur la célébration de la Pâque. C'était la dernière Pâque que le Seigneur Jésus devait manger avec ses disciples avant de souffrir. C'était donc la nuit où il était livré. Seigneur, selon la relation de l'évangile de Jean, qui est à mon avis le seul qui nous le montre aussi clairement, est monté trois fois à Jérusalem. Parce que tout juif qui était soumis aux ordonnances de la loi devait monter trois fois par an au lieu où Dieu avait dit qu'il ferait établir la mémoire de son nom. Nous savons que ce lieu-là était Jérusalem. Pour les trois fêtes rapportées parmi les sept que nous avons dites tout à l'heure, les trois fêtes rapportées en Deutéronome 16. La première, c'était la Pâque. La deuxième, la fête de la Pentecôte ou des semaines, et la troisième, la fête des tabernacles. On voit en tout cas très clairement que le Seigneur est monté en Jean 7 pour la fête des tabernacles. Il y est monté trois fois pour la Pâque, et ici pour la dernière fois. C'est la raison pour laquelle l'introduction du sujet qui est devant nous ce soir est dans le chapitre 22 de Luc, la Pâque, qui est appelée la fête des pains sans levain, approchait. C'était d'ailleurs deux jours avant la Pâque que le Seigneur à Béthanie a reçu l'hommage de Marie, dans la maison de Simon le lépreux. Donc c'était la dernière fois que le Seigneur mangeait la Pâque avec ses disciples. Les deux Pâques précédentes ne sont pas relatées, ne sont pas données dans l'Écriture. Et c'est la septième Pâque dont l'Écriture nous parle. Alors, nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais seulement mentionner deux ou trois circonstances particulières de ces sept Pâques qui sont dans le courant de pensée qui est devant nous ce soir. Il y a eu l'institution de la Pâque en Exode 12. Il y a eu la célébration de la Pâque dans le désert pour la première fois en nombre 9. C'est la deuxième. Le peuple dans l'ensemble a célébré cette Pâque selon l'ordonnance. Donc c'est la deuxième année après sa sortie d'Égypte au 14e jour du premier mois, le mois d'Abib, le commencement des mois de l'année. Et il y a tout de suite une provision de grâce pour que si un homme n'était pas en état moral pour célébrer la Pâque, parce que nous avons rappelé que la Pâque est toujours liée à la fête des pains sans levain, qui est l'absence de mal dans nos voies. Eh bien, il y avait une provision de grâce. L'Israélite, ou s'il était en voyage, n'était pas en mesure de pouvoir participer à la Pâque, ou s'il n'était pas moralement en état de le faire, avait une autre occasion. Et cette Pâque pouvait être célébrée, selon l'ordonnance aussi, par une provision spéciale de grâce, de la même manière, mais le deuxième mois. Voilà donc comment ainsi Christ, en grâce, entre en sympathie pour nous soutenir dans nos faiblesses. Il n'excuse jamais le péché, mais lorsque nous sommes droit devant lui, lorsque nous connaissons notre état, lorsque nous revenons pleinement à nous dans notre cœur, il y a toujours une ressource de grâce auprès de lui, et il y a pardon auprès de toi afin que tu sois craint. La troisième Pâque est à la traversée du Jourdain tout de suite après. On notera qu'à Gilgal étaient placées les 12 pierres qui étaient sorties du lit du Jourdain comme souvenir de la traversée de ce fleuve. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et alors, beaucoup de choses arrivent. À Gilgal, il y a d'abord la circoncision du peuple. L'opprobre de l'Égypte était maintenant roulé de dessus le peuple. Le peuple était en état d'être dans le pays un peuple d'adorateurs et surtout un peuple de conquérants qui allait conquérir le pays par la puissance de Dieu. Et alors, dans les plaines de Jéricho, à côté de Gilgal, là, après les souffrances et la peine, constitue cette mise à mort effective de la chair en nous. Appliquer la puissance de la mort de Christ au mouvement intérieur de l'être tombé qui est en moi, qui cohabite avec la nouvelle nature dans mon être moral entier. Et bien là, après ces souffrances, le Seigneur, en grâce, amène le peuple à célébrer la Pâque et immédiatement la nourriture du peuple change. C'est tout à fait beau de voir comment la manne cesse, parce que la manne, c'était la provision de la grâce de Dieu pour la traversée du désert. Et maintenant, après la célébration de la Pâque, la nourriture du peuple change et c'est le vieux blé, le cru de ce pays. C'est-à-dire, la manne, c'est Christ, le Sauveur céleste qui nous vient en aide dans la traversée du monde. Mais le vieux blé du pays, le cru de ce pays-là, c'est la jouissance par anticipation pour nous, effectivement lorsque nous serons là-haut, de ce merveilleux Christ des conseils et des pensées de Dieu qui est la nourriture de notre cœur, la nourriture de nos âmes. Eh bien, cette nourriture-là, elle est liée à la célébration de la Pâque parce que l'œuvre de Christ ne sera jamais oubliée, ne sera jamais perdue de vue, ni sur la terre comme fondement des bénédictions d'Israël et des nations, ni dans le ciel comme le fondement de la part bénie de l'Église, peuple de sacrificateurs et d'adorateurs dans le ciel autour du trône de l'agneau. Les trois Pâques suivantes sont liées, chose remarquable, au moment de faiblesse et aussi d'infidélité du peuple. Deux Pâques sont célébrées à l'occasion des deux derniers réveils qui ont marqué l'histoire de Juda et de Benjamin, sous Ézéchias et sous Josias. Voulons dire un mot de la Pâque d'Ézéchias, qu'on trouve en 2 Chroniques 30. Verset 15, on égorgea la Pâque le 14e jour du second mois. Et juste avant, il y avait des courriers qui passaient de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé. On se raillait d'eux. Toutefois, verset 11, des hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. La main de Dieu fut aussi sur Juda pour leur donner un même cœur, pour exécuter le commandement du roi. Alors la conséquence, on célèbre la Pâque, avec justement ceux-là même qui étaient revenus des 10 tribus, on la célèbre à Jérusalem, et le centre de cette Pâque célébrée est en Juda et Benjamin, le résidu du peuple d'Israël qui était resté fidèle à l'Éternel sous le règne des rois de Juda avec Jérusalem comme centre religieux. Il n'y a pas d'autre centre que celui-là dans la vie et dans le monde chrétien. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. Verset 31, voilà le chapitre 31, le verset 1 au milieu. Les conséquences morales s'ensuivent. La Pâque n'a pas été reportée en Samarie, au lieu de l'habitation royale des tribus d'Israël. Mais un effet moral a été produit sur ceux-là qui étaient montés à Jérusalem pour célébrer la Pâque selon l'ordonnance. Ils s'en allèrent par les villes de Juda, brisèrent les statues, les achères et démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin. Chose remarquable, la Pâque qui était habituellement mangée avec des pains sans levain et des herbes amères, les herbes amères de la repentance et de la peine profonde du cœur, cette Pâque aujourd'hui est célébrée avec joie parce que on avait retrouvé pour nous la communion avec Dieu. On avait son assentiment, son approbation dans le souvenir de ce que Christ avait fait. Et la même pensée se retrouve dans Esdras lorsque la sixième Pâque est célébrée. En Esdras, quelques pages plus loin, au chapitre 6, au verset 19, on célèbre la Pâque le 14e jour du premier mois, les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés. Verset 22, ils célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec joie, car l'Éternel les avait rendus joyeux et il avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Alors, la joie ici, qui est remarquablement donc associée à la peine avec laquelle on célébrait habituellement la Pâque. Cette joie est rendue possible parce que le peuple s'était séparé des peuples, des nations. Il me semble que la source de notre joie se trouve là. Nous serons heureux dans la mesure où nous serons effectivement séparés du système du monde tout court et du monde religieux aussi. Alors disons un mot que c'est que la séparation qui est une chose nécessaire pour nous et nous sommes de plein cœur avec nos chers jeunes qui ne comprennent pas souvent la nécessité de la séparation. La séparation est une chose nécessaire, mais la séparation, chers frères et sœurs, ne nourrit pas. Ce n'est pas la séparation qui nous nourrit, c'est la grâce, c'est la jouissance de Christ, de son amour et de son œuvre qui nous nourrissent. La séparation est une chose nécessaire. La séparation a 2 dangers. La première, c'est qu'elle nous occupe du mal. Si on se sépare, c'est donc qu'il y a quelque chose avec lequel nous ne pourrons pas rester en communion. Donc nécessairement, elle nous descend nos pensées à des choses qui ne sont pas heureuses. Et en même temps, la séparation peut être pour nous un danger parce qu'elle nous élève à nos propres yeux, c'est-à-dire qu'elle entretient en nous un principe de supériorité et de contentement de soi. Ces choses sont à proscrire entièrement dans nos propres cœurs. Nous ne sommes pas séparés parce que nous sommes meilleurs, bien au contraire. Nous sommes séparés parce que, pourquoi ? Bien parce que Christ le demande. Parce que nous sortons hors du camp, parce que Christ est hors du camp. On va donc vers lui, parce que lui n'est plus dans le camp. Voilà le principe de la séparation. C'est simple, mais dans les applications pratiques de la vie des croyants et des assemblées, c'est peut-être souvent difficile à réaliser. La 7e Pâque, c'est celle de Christ, avec ses disciples. Luc 22. Pour nous, l'apôtre enchaîne avec des conséquences importantes. C'est 1 Corinthiens 5, et le temps manque pour entrer dans beaucoup de détails. Nous lisons simplement un seul verset de 1 Corinthiens 5, 7. « Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. » Alors là, c'est aussi clair que possible. C'est la fête de la Pâque liée à celle des pains sans levain, dont l'application au terrain chrétien est donnée par l'apôtre Paul lui-même. Et 1 Corinthiens 5, nous le savons, ce triste chapitre nécessaire dans les voies de Dieu, nous montre que les Corinthiens, qui marchaient n'importe comment, dans le mal moral, en étant très fiers d'eux-mêmes, bien contents d'avoir les dons, y compris le don des langues et s'en glorifiant, marchaient dans un désordre tel que le monde même avait honte d'eux. C'est bien triste. Mais l'apôtre les ramène aux solides réalités de la vie chrétienne et au fait qu'on ne peut pas invoquer le nom du Seigneur Jésus si on marche comme les Corinthiens le faisaient. Eh bien, gardons cette leçon, nous avons toute notre vie, 7 jours, c'est la plénitude de la vie chrétienne, nous avons à marcher ici dans la séparation du monde, du mal, sous toutes ses formes. La séparation du mal moral, 1 Corinthiens 5, la séparation du mal de doctrine, particulièrement touchant les gloires de la personne de Christ, et en Galates 5. Nous en sommes donc arrivés à la fin de la célébration de la Pâque. C'est maintenant l'institution de la scène du Seigneur. En Luc 22, comme en 1 Corinthiens 11, c'est avant tout le côté du mémorial et du souvenir qui nous est présenté. Le Seigneur va donner maintenant aux siens, pour le temps de son absence, 1 Corinthiens 11 nous dit « jusqu'à ce qu'ils viennent », c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur pour prendre l'Église et les saints endormis auprès de lui, il laisse un souvenir de son amour, sous une double forme, le pain, la coupe. La coupe ici n'est plus le symbole de la joie, comme celle qui avait été bue par les disciples au moment de la célébration de la Pâque. C'est une coupe de souvenir. C'est une coupe de consolation. Jérémie 16, offéreur, nous le dit au verset 7 sous une forme négative que nous transformerons facilement, puisqu'il s'agit en fait d'un jugement sur le peuple au moment où le prophète écrivait, Mais la pensée se trouve évidemment facilement transcrite pour le Seigneur dans ce qui nous est dit au verset 7. « On ne rompra pas pour eux le pain dans le deuil en consolation au sujet d'un mort, et on ne leur donnera pas à boire la coupe des consolations pour leur père ou pour leur mère. » Alors que faisons-nous lorsque nous célébrons ainsi le souvenir de la mort de Christ? Eh bien, nous nous affligeons de la brèche de Joseph. Il y a certainement une joie que nous partageons, mais cette joie est empreinte de la tristesse de penser que notre état, ce que nous avions fait, ce que nous étions par nature, a rendu nécessaire la mort expiatoire de Christ. Ses souffrances de l'abandon et le fait qu'il a dû entrer dans la mort et qu'ensuite son sang a été versé. Ici, c'est beaucoup plus le côté de la substitution que le côté de la propitiation qui est présenté. On marquera comment il est dit, versets donc 19 et 20, puisque c'est l'introduction de la scène. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, la coupe après le souper, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Christ a pris notre place. Voilà le côté de la substitution. De Dieu est offert ainsi en grâce et en justice à tous ceux qui veulent venir. C'est le côté de la propitiation. Et Christ a été notre substitut à chacun de nous ici, et souhaitons que tous y soient inclus, à tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ et dans son œuvre. Donc Christ se présente lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est une figure, mais infiniment précieuse. N'entrons pas dans le détail, les théories que la parole ne soutient pas, de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance, qui est le principe catholique, ou la cohabitation des deux substances, c'est la co-substantiation, qui est la théorie de Luther et de l'Église luthérienne. Ici, c'est un souvenir seulement, c'est une figure. Mais une figure, rien n'est plus précieux, rien ne peut être plus touchant pour le cœur des saints et de l'Église que ce souvenir de la mort de Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, en rapport avec la Pâque, ne sera oublié ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans le temps, ni dans l'éternité. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je voudrais comparer ceci, donc l'institution de la scène et sa célébration, particulièrement en 1 Corinthiens 11, avec ce que le Seigneur lui-même dit dans un autre passage remarquable de Jean 6. Je ne lis qu'un seul verset de Jean 6, le verset 53. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ensuite, cette vie sera soutenue, entretenue, nourrie par les mêmes aliments de la chair et du sang. Verset 56, et là c'est un passif et non plus un aoriste. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Seigneur s'est présenté en Jean 6 aux Juifs et ensuite aux disciples dans une parole que le monde a eu de la peine à recevoir. Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ? Comme étant le vrai pain divin, le vrai pain de Dieu descendu sur la terre pour donner la vie au monde. Alors la difficulté, je vais essayer d'employer un langage aussi simple que possible à l'intention pour nos chers jeunes. En Jean 6, c'est la chose essentielle qui est présentée, mais c'est spirituellement que le corps et que le sang de Christ sont mangés et sont bu. Mais c'est un acte sans lequel la vie ne peut pas être communiquée. Il faut spirituellement, moralement, par la foi, manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, c'est-à-dire être identifié avec sa mort pour avoir la vie. Il fallait la mort de Christ. Le chemin de la vie pour lui passait par la mort et nous ouvre à travers les eaux de la mort et du jugement un chemin vers la bénédiction et vers la vie. Et celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le témoignage est clair, l'eau, l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord pour le même témoignage. Celui qui a le Fils a la vie. Mais c'est d'un Christ mort que nous nourrissons, nous buvons, mangeons la chair du Fils de l'homme et nous buvons son sang. C'est un acte spirituel qui est entièrement moral, mais qui est fondamentalement fondé sur l'œuvre de Christ. Maintenant, dans la célébration de la scène, nous retrouvons les mêmes vérités. mais elles sont présentées en figure, bien qu'elles donnent lieu à un acte matériel. Il n'y a que deux choses visibles dans la vie de l'Église sur la terre et de la vie chrétienne. C'est deux symboles visibles, tous deux rattachés à l'œuvre de Christ et à sa mort. D'un côté le baptême, effectivement, nous faisons entrer nos enfants dans l'eau du baptême par aspersion ou par immersion. Ils ressortent de l'autre côté sur le terrain de la vie, ou dans la scène, en figure, en mémoire de Christ, nous nous souvenons de sa mort, de son corps donné et du sang versé. Alors nous faisons ces choses en figure, elles présentent un acte matériel. Alors que Jean 6 est un acte spirituel qui est fondé sur l'œuvre de Christ aussi. Les deux choses sont donc l'inverse l'une de l'autre, mais elles ne doivent ni être confondues, ni certainement ne doivent pas être oubliées. Alors le Seigneur, pour le temps de son absence, a donc institué cette scène, la scène sous ces deux espèces. Le corps est aussi un autre symbole. C'est le corps, nous l'avons rappelé avant-hier dans notre étude d'Hébreux 10, c'est le voile déchiré. La chair de Christ, c'est-à-dire le corps donné pour nous. Non pas rompu pour nous, donné pour nous. Sans réserve. Le corps est vu dans le pain. Et il y a aussi un seul pain, un seul corps. Et le seul pain est un symbole de l'unité par la foi. On n'aime pas trop le mot mystique parce qu'il a une connotation péjorative, mais c'est le symbole du corps spirituel formé de Christ, tête du corps, et de tous les croyants vivant aujourd'hui sur la terre, tous ceux qui sont réunis au bruit ensemble ce soir, tous ceux qui dans tous les pays du monde connaissent Christ, le reconnaissent comme sauveur, et sont à l'abri de son œuvre, et qui sont scellés par le sceau, le tampon du Saint-Esprit, le sceau divin sur l'âme. Tout cela forme aujourd'hui le corps de Christ sur la terre. N'en connaissons qu'une infime partie, Dieu les connaît, et cela doit nous suffire. Il y a un pain, parce que Christ a donné son corps et que son offrande a été faite une fois pour toutes. Il y a un seul pain, un seul corps, et cette unité n'est plus à faire. Nous sommes invités d'ailleurs par un autre passage d'Éphésiens 4, début d'Éphésiens 4, non plus à réaliser l'unité du corps, elle est faite, mais à manifester la pratique de cette unité dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc le Seigneur, pour le temps de son absence, a institué la scène jusqu'au terme de l'histoire de l'Église sur la terre, c'est-à-dire jusqu'à la venue de Christ. Alors qu'avons-nous comme conséquence pratique? C'est l'apôtre qui tire les conséquences en 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11. Passant, je voudrais signaler que Luc 22 est peut-être le seul des trois évangélistes synoptiques qui nous présente avec autant de clarté les trois coupes dans ce chapitre. La première coupe liée à la Pâque était celle de la joie reportée à plus tard. La deuxième coupe est celle du souvenir, celle du mémorial, qui est pour le temps de l'absence de Christ. Et la troisième, la plus solennelle sûrement pour Christ, c'est la coupe de la colère. Il l'a acceptée de la main de son Père à Gethsémané. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas, dit-il à Pierre lorsque Pierre frappe Malchus, l'esclave du souverain sacrificateur. En même temps, personne ne pouvait prendre Christ. En Jean 18, le Seigneur est obligé de dire « Mais la coupe, le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» En même temps, il se présente comme étant celui qu'il cherchait. Ils ne peuvent pas le saisir, il tombe par terre. Saisi de crainte, effrayé. Mais en même temps, c'est Christ qui se donnait lui-même. Alors cette coupe, c'est une coupe de colère, une coupe d'étourdissement. Plusieurs passages, notamment Apocalypse 14 et deux passages d'Ésaïe de Jérémie, nous présentent l'ardeur effrayante de cette coupe. Le Seigneur seul en a sondé l'insondable profondeur dans cette scène qui, sur la croix, évidemment, n'a pas eu de témoin humain. Peut-être pas céleste même, puisqu'un ange a été envoyé du ciel pour soutenir le Seigneur dans son combat à Gethsémané. Personne ne soutenait le Fils de Dieu dans les heures de la croix. Le soleil a voilé sa clarté. Personne n'était là. Les disciples s'étaient enfuis. Le brigand venait de faire sa confession. Les femmes étaient... Quelques-unes étaient là, Marie en tout cas, Jean était revenu. Cette scène n'a pas de témoin, et le Seigneur seul sonde l'insondable. Le Père connaît la manière dont il a dû frapper son Fils, sans compassion et sans miséricorde, afin que justement, nous ne soyons pas soustraits à l'empire des ténèbres. Seigneur a dû traverser les ténèbres. Il a dû dire, il n'y a pas de repos pour moi, afin que nous ayons le repos, son œuvre parfaite, le cantique que nous avons chanté ensemble avant-hier. Alors, la troisième coupe, c'est celle de la colère. Christ l'abuse seul. Alors, l'apôtre Paul a été particulièrement doué. C'est l'une des quatre grandes vérités de la doctrine qu'il appelle sa doctrine, c'est la doctrine de Paul, qui nous rappelle la véritable portée de la scène du Seigneur et de la table du Seigneur. En 1 Corinthiens 11, c'est le côté de la scène qui, dans la première partie de cette institution de la scène, répété par Paul, selon qu'il l'avait reçu, par le Seigneur lui-même directement de la gloire. Je vous dis, moi aussi, ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et il répète à peu près les paroles de Luc 22. Alors ce qu'il nous dit, c'est que chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ici, ce sont le cœur et les affections qui sont en jeu, essentiellement. Le Seigneur parle, par la plume de l'apôtre inspiré, à notre cœur. Notre cœur ne peut pas rester insensible. Alors pourquoi y a-t-il dans nos familles tant de jeunes qui laissent passer le temps? Pourquoi? Parce que vous attendez d'être meilleur. Parce que vous attendez de mieux réaliser. Parce que vous attendez de mieux comprendre. Bien, plus vous attendez, plus vous réaliserez que par nature, vous n'êtes pas plus digne à la fin de votre vie. Et nous vous en portons notre témoignage personnel, que vous n'étiez digne au début de votre carrière chrétienne. Je verrai le sang. Heureusement, c'est Dieu qui voyait la valeur du sang de l'expiation, du sang de l'agneau pascal. Et c'est parce que Dieu en mesurait cette valeur infinie qu'il épargnait son peuple. C'est parce que Dieu connaît la valeur de l'œuvre de son Fils que maintenant, en grâce, nous pouvons nous approcher. Mais il y a une condition qui est présentée dans la fin du chapitre 11 et qui est d'ailleurs liée tout à fait à la célébration de la fête des pains sans levain liée à la Pâque. Eh bien, de la négligence dans ces choses entraîne des conséquences graves. Et les Corinthiens, qui n'étaient certainement pas un modèle dans leur vie morale, 1 Corinthiens 5 nous le dit, étaient très négligents dans la célébration de la scène. Ils le considéraient comme un repas ordinaire, exagéraient dans le manger et le boire et s'enivraient même, et toutes sortes de désordres prévalaient dans l'église de Corinthe. Alors le Seigneur invite Paul à les avertir de sa part, en disant, mais si vous mangez indignement, eh bien, vous allez être coupable du corps et du sang du Seigneur. Manger indignement, qu'est-ce? Eh bien, c'est s'approcher de la scène, y participer dans un état moral qui n'est pas convenable. Et là, l'exercice touche la conscience et est placé sur le terrain individuel. Mais ce n'est pas le seul. Le terrain n'est pas seulement individuel. Le terrain est aussi un terrain collectif. Alors, quelle est la conséquence? Allons-nous nous priver de la scène du Seigneur parce que, justement, nous voulons échapper au jugement solennel qui est amené dans les versets 27 à 34 des 1 Corinthiens 11? Non. L'apôtre dit l'inverse, le contraire. Mais justement, jugez-vous vous-même et vous vous approchez, et qu'ainsi donc, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La conséquence donc, c'est le choix ne nous est pas laissé. Nous sommes invités à nous juger, et lorsque nous sommes dans l'état moral pour nous approcher de la scène du Seigneur et y participer, nous participons. C'est donc une invitation qui est faite à tous. Cette invitation est faite à tous parce que tous les vrais croyants, ceux qui sont scellés de l'Esprit, sont membres du corps de Christ. Et voilà l'universalité du principe. Mais, chose extraordinaire, ce même principe de l'unité du corps marque aussi les bornes de la manière dont les choses peuvent se réaliser sur la terre alors que nous sommes encore environnés de faiblesse dans un monde difficile et dans un système chrétien qui sombre quand même dans l'apostasie, il faut le dire. Et c'est 1 Corinthiens 10 qui nous présente l'autre chose, l'autre fait, l'autre côté de la réalité. Alors si 1 Corinthiens 11 dans l'institution de la scène nous parle au cœur et à nos affections, l'appel à la sainteté parle à notre conscience. Et maintenant l'apôtre parle aux Corinthiens à leur intelligence. Je parle comme à des personnes intelligentes. Et nous avons une intelligence de la part du Saint. Nous avons l'onction de la part du Saint de sorte que nous puissions saisir ces choses. Ce n'est pas l'intellect, Ce ne sont pas les surdoués qui peuvent comprendre ces choses, mieux que les petits-enfants. C'est par le cœur et les affections, mais c'est par l'intelligence spirituelle qui est le Saint-Esprit conduisant notre propre esprit dans les choses de Dieu. Et c'est aussi clair que possible dans 1 Corinthiens 3. Alors, quelle est la vérité? Maintenant, c'est la vérité de la table du Seigneur. Je voudrais faire quand même justice de quelque chose qui me paraît prévaloir, peut-être pas prévaloir, mais en tout cas avoir cours dans les assemblées, selon lequel, comme la vérité de la table du Seigneur n'est mentionnée qu'une fois dans l'Écriture, on peut peut-être passer sous silence et en fait négliger. Alors je voudrais simplement dire à ceux-là qui voudraient propager de telles choses que le Seigneur a dit que ses paroles ne pouvaient pas passer. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et qu'il n'y aura pas un trait de lettre, ni un iota. La moindre des choses que Christ a dites, a faites, a écrites dans la parole inspirée qui passera. Et quelqu'un a dit, F.B. Hall, que les paroles de la bouche de Christ étaient plus stables que les œuvres de ses mains. Alors le fait que l'expression « table du Seigneur » ne se trouve qu'une seule fois dans l'Écriture, en 1 Corinthiens 10, 14 à 23, ne prouve en aucune manière que ce ne soit pas une vérité fondamentale à laquelle nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Mais là encore, ce ne sont pas des choses théoriques, ce ne sont pas des choses qui s'adressent à notre intelligence. Elles mettent en mouvement nos cœurs et nos affections. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du Seigneur. Si nous souvenons de la mort de Jésus, de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, la table, c'est la table du Seigneur. C'est bien le souvenir, le symbole, le mémorial de la mort de Jésus, de la mort du Sauveur. Mais ce Sauveur, c'est le même Seigneur qui avait toute autorité pour commander au maître de préparer la table, de préparer la chambre haute garnée, préparer l'ânon, le petit de l'ânesse, pour entrer en gloire à Jérusalem. C'est le Seigneur, celui qui a tous les droits. Alors Seigneur, la Seigneurie de Christ, elle s'adresse aux individus. Il est mon Seigneur, votre Seigneur, notre Seigneur à chacun. Collectivement, il est le chef, tête du corps. Et voilà le terrain sur lequel la scène est placée maintenant en rapport avec la table du Seigneur. Alors ce que nous disions tout à l'heure, c'est que le principe de l'unité du corps établit l'universalité du privilège. Ce n'est en aucune manière un droit, c'est un privilège qui est accordé à tous. Tous peut-être ne le saisissent pas encore par la foi. Mais d'un autre côté, c'est la borne aussi. La borne de la manière dont les choses peuvent se présenter, peuvent se faire, dans un temps de faiblesse où, effectivement, la séparation est une chose triste mais nécessaire. Alors, parce que la scène est le symbole de l'unité du corps de Christ, la scène ne peut pas être prise individuellement, d'abord, c'est un acte collectif. Un acte d'une assemblée représentant le corps de Christ en un lieu formé des frères et sœurs réunis comme corps en assemblée au nom du Seigneur, réunis en se réclamant du privilège de la présence personnelle de Christ dont on se souvient dans sa mort expiatoire et son sang versé. Voilà le terrain sur lequel se fait cet acte de participer à la scène. On y participe individuellement, l'un et l'autre, buvez-en tous. L'offre, l'appel est fait à tous les cœurs, toutes les consciences. On ne peut le faire individuellement que dans un état moral convenable, mais en même temps, c'est un acte qui engage le corps entier. Donc, on ne peut pas, à son gré, forcer la conscience de l'Assemblée pour donner la scène à quelqu'un, qui que ce soit, sur son propre témoignage personnel. On doit engager le corps entier et le faire, ne pas respecter ce principe moral, c'est ouvrir la porte au désordre et nous savons où nous entraîne le désordre. L'obéissance, chers frères et sœurs, est toujours le chemin de la bénédiction. Donc le principe de l'unité du corps, c'est que la participation à la scène est un acte collectif et un acte qui engage le corps entier. Il y a beaucoup plus que le mémorial dans la table du Seigneur. Manger la scène, manger l'acte de manger, de partager une nourriture, est un acte de communion, un acte qui engage non seulement les uns et les autres dans cet acte, mais qui nous identifie avec ce qui est mangé, c'est-à-dire qui nous identifie avec Christ lui-même. Les Corinthiens sont placés devant deux témoignages, le témoignage des viandes consacrées aux idoles et que les Corinthiens, avec beaucoup de négligence, mangeaient sans s'imaginer que derrière les idoles, il y avait les démons, et qu'ils se mettaient ainsi en communion avec les démons. Alors, utiliser évidemment l'expression de la table des démons, qui était utilisée à Corinthe parce que les Corinthiens sortaient d'un milieu idolâtre, serait une abomination pour l'appliquer à des chrétiens dont nous ne pensons pas qu'ils soient réunis vraiment en séparation du mal, quand même en se réclamant du Seigneur. Il ne s'agit pas de cela. Et d'un autre côté, l'autre exemple est donné par le fait que les sacrificateurs et le peuple tout entier mangeaient du sacrifice de prospérité et que le sacrifice était partagé par tous, par l'adorateur, par les sacrificateurs qui offraient le sacrifice, par Aaron et ses fils, expression de l'Église et de Christ lui-même, chef de l'Église, et par tous ensemble. Donc il y a un acte collectif qui nous met en relation les uns avec les autres et qui nous identifie les uns et les autres avec Christ lui-même dans son sacrifice. Et voilà la base fondamentale de la séparation. Sans entrer dans trop de détails, Agger nous présente deux cas. Une chair qui était sanctifiée, pouvait-elle sanctifier quelque chose qui était en contact avec elle? D'un autre côté, quelque chose qui était mauvais, qui portait une souillure en soi-même, par exemple le contact avec un corps mort, pouvait-il être sanctifié, c'est-à-dire cette souillure pouvait-elle enlevée par le contact avec quelque chose de sanctifié? Eh bien non, c'est pas possible. Prenez l'exemple d'une coupe de fruits. Les fruits sont avariés, et je mets un fruit de bonne qualité au milieu de la coupe. Que lui arrivera-t-il à ce pauvre fruit? Il sera varié en moins de temps. Et d'un autre côté, c'est l'inverse. Si vous avez une coupe pleine de bons fruits et que vous mettiez un fruit avarié, eh bien, le levain fait lever la pâte tout entière. La seule manière d'arrêter l'action du levain, eh bien, c'est l'exercice du feu du jugement. Nos sœurs le savent bien. Lorsque vous faites un gâteau et que vous utilisez de la levure, vous mettez l'action de la levure cesse lorsque le gâteau est mis au four. Donc, le mal souille, et pas un petit peu. Le mal se propage. La seule manière d'en être gardé, de cette propagation du mal, c'est d'être séparé. C'est triste, mais c'en est ainsi. Et en définitive, eh bien, puisque le Seigneur est engagé dans cette chose, et que c'est sa gloire que nous recherchons, eh bien, c'est pour lui que nous séparerons de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Que le Seigneur nous garde humble, humilié, mais dans l'adoration, et que son nom soit béni éternellement.